Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
À de nombreuses reprises déjà dans Les Vivants et les Dieux, nous nous sommes intéressés, nous avons essayé de comprendre pourquoi un certain nombre d'occidentaux ou de femmes occidentales s'adonnaient à la danse indienne. Sans aucun doute, dans la mesure évidemment où dans cette danse, il y a une dimension religieuse et plus loin encore une dimension spirituelle qui lui est absolument inhérente et dont nous avons largement perdu le sens aujourd'hui. Et dans la mesure aussi où dans la danse, bien sûr, il y a un usage du corps, un exercice du corps, et plus profondément, sans aucun doute, une habitation du corps, qui fait que notre corps n'est plus ce que nous possédons, mais beaucoup plus ce que nous sommes, et qui nous met en relation, et on retrouve bien entendu un des horizons de la pensée indienne, qui nous met en relation avec ce que nous sommes au plus profond de nous, et où, à travers, précisément, ce travail avec le corps, comme on le trouve bien entendu dans le yoga, on découvre l'horizon de cette âme en nous, de cet Atman, qui en réalité n'est qu'un autre aspect de l'inconditionné suprême dont nous sommes issus selon cette manière en quelque sorte de concevoir la structure de l'univers et notre place à l'intérieur de cet univers. Aujourd'hui, c'est avec Pumilesco que nous allons nous intéresser à ce phénomène. Pumilesco, qui a été initié, le plus profondément qu'il soit, à la pensée de l'Inde, par sa rencontre avec un maître, avec un swami, le maître Balayagi, et Pumilesco, qui à travers une pratique du yoga, et particulièrement du Kundalini Yoga, dont on sait qu'il s'inscrit dans l'horizon du tantrisme, Pumilesco, qui à la fois est une danseuse, à la fois est une chanteuse, est à la fois une psychothérapeute, et il faudra bien entendu s'interroger sur l'unité qu'elle établit entre ces trois aspects de son activité, et où on voit très bien comment il y a là la rencontre de l'Occident qu'elle porte en elle, de l'Orient qu'elle découvre, et par exemple dans sa manière de chanter le Kyrie Eleison, qui à la fois renvoie à la messe en latin telle que nous l'avons connue tout au moins jusqu'au concile de Vatican II, dans ce Kyrie Eleison qui affirme l'unité avec le monde grec, Kyrie c'est le Seigneur en grec lorsqu'on s'adresse à lui, au vocatif en quelque sorte, et à la fois sur des rythmes qui sont des rythmes ou des mélodies qui nous viennent de l'Orient et où il y a donc la confluence de l'ensemble de ces continents. Et afin d'entendre ce que nous dit Pumilesco, en plus d'elle-même, nous allons écouter Didier Malherbe, musicien, compositeur, joueur de flûte indienne, de bansuri et de toutouk arménien.
Le principe de ma recherche est de trouver une colonne vertébrale commune à tous ces différents outils, à tous ces différents langages. En fait, je crois que c'est lié à ma personnalité. J'ai besoin d'exprimer, en fait, j'exprime toujours la même chose, mais dans différents outils. Avec essentiellement la danse, le chant, et il y a ce rapport à l'espace qui est tellement important pour moi.
Je
j'avais monté un spectacle qui s'appelait Omnamo et qui était une méditation sur l'espace et le temps. Et il y avait toujours au moins trois parties du corps qui partaient d'un point à un autre, qui parcouraient des espaces différents dans un même temps donné. L'espace-temps en danse n'est pas le même qu'en chant, ni qu'en peinture, ou en écriture. Et ce que je trouve passionnant, c'est de chercher tout ce qui est à la fois de commun, et aussi tout ce qui... Comment dire ? Chaque langage a ses règles propres. Et à l'intérieur de ces règles propres, il y a un dénominateur commun de fonctionnement au niveau du processus. Et c'est ce qui me passionne, de trouver ça. La motivation principale de tout mon travail, c'est d'apporter du bien-être à autrui. Que ce soit par les mantras, souvent on me dit je rentre chez moi le soir, ça m'enlève le stress, ou enfin, il repose quand même beaucoup sur les techniques de guérison. Que les choses soient apaisantes ou de l'ordre d'une expérience et pas d'une consommation d'art. Par exemple, j'ai eu une expérience, j'avais donné ce spectacle Omnamo, qui était une sorte de... C'était très très méditatif, qui était une sorte de... C'était presque hypnotique comme travail. Et j'ai reçu un courrier quelque temps après avoir dansé ce spectacle-là, dans un moment où j'avais l'impression que personne ne comprenait ce que je proposais. Et puis la lettre me dit, cette dame me dit, j'avais l'épaule paralysée depuis 7 ans, et puis je suis venue, j'ai fixé la danse, je me suis sentie absorbée dans cette énergie, et puis ça s'est mis à circuler dans mon corps, et quand je suis sortie du théâtre, je n'étais plus paralysée. Donc il y a ce travail au niveau de l'énergétique qui me fascine.
Didier Malherbe a jugé la musique dont vous jouez, c'est généralement de la musique, je dirais, traditionnelle au grand sens du terme, ou de la musique qui touche à la musique sacrée. Et on peut se demander pourquoi, précisément, vous avez choisi de naviguer dans ces territoires.
Oui, c'est certainement une quête philosophique comme une autre, de jouer de la flûte, et peut-être on touche au sacré, certainement, avec le souffle originel. Très conscient, je commençais sur jouer des saxophones, mais ensuite j'ai joué de la flûte indienne, j'étais en Inde et j'ai rencontré des gens qui m'ont, disons, inspiré et encouragé à suivre cette sorte de voix du souffle, et en même temps cette voix des intervalles musicaux, cette voix de la musique, quoi.
Le peu que vous nous avez dit, vous nous avez parlé d'art, je dirais, vous nous avez parlé de quelque chose qui est de l'ordre du thérapeutique, d'une certaine manière, vous nous avez parlé en même temps de spiritualité. Alors, ce sont des choses que parfois on accouple, je dirais, deux par deux, on n'a pas l'habitude de voir les trois ensemble.
Oui, je les mets tout le temps ensemble, tous les trois. Pour moi, c'est trois éléments indissociables, comme la Trinité. C'est une sorte de Trinité. L'art, la spiritualité, la thérapie, je crois qu'on est mystique. Donc c'est quelque chose qui était très fort chez moi, ça. Artiste, c'est pareil, on est comme ça. Depuis toute petite, je ne peux pas faire autre chose. La danse, pour moi, est à la fois un dieu et un démon. Qui m'ont habité très très fortement, et donc je n'ai pas choisi d'être danseuse, c'est la danse qui m'a choisi, et puis la musique et les autres éléments sont venus après, mais au départ c'était vraiment la danse et ce mi-dieu mi-démon de la danse, quelque chose de très fort à l'intérieur, et la mise en scène aussi, c'est venu très très tôt, la chorégraphie, la mise en scène. Donc à 10 ans, j'avais monté un théâtre de marionnettes, etc., et à la campagne, et tous les dimanches, c'était plein. Et j'inventais des histoires pendant 2 heures. Mais, donc ça, c'est... Et la dimension spirituelle et la dimension artistique étaient... vient d'instinctivement. C'est instinctivement mélanger les deux ensemble. Et la thérapie, alors si j'avais pas été habitée par ce dieu démon de la danse, j'aurais fait médecine. Donc ça, c'était quelque chose aussi très fort, on va dire de l'ordre d'une vocation, entre guillemets. Quand j'avais ma compagnie qui portait mon nom, écrit autrement, pour la compagnie Pluminescu à l'Opéra Comique, C'est ce que je faisais avec les danseurs de ma compagnie. Pendant 6 mois, on avait fait un travail d'improvisation où je voulais que chacune et chacun évolue en tant qu'être humain à travers le travail de création. C'était mon objectif.
À ce que vous nous dites, Pluminescu, il y a quand même un élément central qu'on ne peut pas ne pas entendre, qui est celui de, je dirais, de l'habitation de son propre corps, et en même temps la manière dont le corps habite le monde. Et on a l'impression que c'est une sorte de pivot, ou je dirais de socle à votre recherche.
Tout à fait. Et là, on est en train de travailler sur une nouvelle création, l'inspiration chamanique, avec des joueurs de didgeridoo, de vaisseaux de cristal et de chants harmoniques, percussions, steel drum, etc. Je me sens, en tant que danseuse, plus chamane que danseuse de temps plein doux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de la transe. Mais il y a les deux, en fait. Ça dépend des moments. Là, en ce moment, je me sens beaucoup plus dans cette dimension-là. Et je vais introduire à la fois la danse et le chant, bien sûr, la voix, le travail de la voix, qui est très... c'est étonnant, le mélange entre la voix et le didgeridoo. C'est plus une matière sonore que de la musique. Au sens où Didier, quand il joue de la flûte... Il y a toute une ligne mélodique, etc. Tandis que il n'y a pas ça avec le didgeridoo. C'est quelque chose d'assez brut. D'ailleurs, c'est un instrument extrêmement ancien et très spirituel. Il a été créé dans un but de l'être humain qui communique avec le ciel, avec le cosmos, la terre et le cosmos. Cette liaison entre la terre et le cosmos. Le didgeridoo, c'est ça, c'est ce côté très, très brut, très presque préhistorique de l'instrument qui m'intéresse.
Quand on commence à jouer de la musique, on ne sait pas exactement très bien pourquoi. On ne doit pas d'ailleurs savoir vraiment pourquoi, je pense, mais après pas mal d'années, on peut être incité à des réflexions sur le sujet. Mais je crois que si le savoir passe par des mots, à ce moment-là, non, il faut s'en méfier, à mon avis. Et donc jouer de la musique très très entièrement, on touche à des choses certainement. Proche du sacré, mais je crois beaucoup à une sorte d'abdication des mots dès qu'on touche à la musique. La yogi.
Lorsque vous parlez de chamanisme, Pumescu, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le chaman, c'est un musicien, c'est un chanteur, c'est un danseur, c'est aussi ce que nous appelons dans notre vocabulaire un spirituel, c'est en même temps un médecin. C'est-à-dire comme si on était là, je dirais, à la racine précisément de cette unité entre ce qui est de l'ordre artistique, ce qui est de l'ordre de la thérapie et ce qui est de l'ordre du spirituel.
C'est exactement ça. Là, on relie tout. Le guérisseur, le danseur, le chanteur, en fait tout ça est indissociable. On est comme les cinq doigts d'une main.
Précisément, est-ce que d'une certaine manière, alors vous n'essayez pas de retrouver ce que, dans l'Antiquité par exemple, on appelait la médecine sacrée, qui était une médecine du corps, tout à fait physique, et qui était en même temps une médecine de l'âme et une médecine de l'esprit.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs j'étais sur cette île grecque où a vécu Hippocrate, et on nous montrait un temple et on nous disait, voilà, ils soignaient avec les plantes, avec les eaux sulfureuses, ils soignaient aussi avec les prières dans le temple, et avec les chants et avec la danse, donc voilà.
Alors, par rapport à ce que vous nous décrivez là, Pumescu, en même temps, il y a un moment où vous êtes vraiment tourné vers l'Inde, en tant que tel. Puisque vous êtes quand même allé apprendre le yoga de la Kundalini, ce qui n'est pas absolument évident, c'est le moins qu'on puisse dire, et que donc comme si vraiment il y avait je dirais une appréhension du corps ou une habitation du corps que l'Inde pouvait vous donner à travers sa tradition.
En fait, ma quête est là, si je restais uniquement dans le spectacle, la danse contemporaine, la création telle que je vivais avant cette quête en Inde, il y avait beaucoup de souffrance dans tout ça. Beaucoup de l'ordre du monde émotionnel, égotique, etc. Et je me suis dit, non, il y a autre chose. Donc j'entendais parler de l'Inde depuis 10 ans et j'ai préparé ma vie pendant une année à mettre au clair toutes les histoires de compagnie et pouvoir partir dans cette quête vers l'Inde. Et là, effectivement, j'ai trouvé l'Inde qui était un miroir de choses que je pressentais chez moi, mais que je n'avais pas saisi à bras-le-corps. J'y ai cherché une réponse à ma question et je l'ai trouvée dès le premier voyage. C'était vraiment quelque chose de magique et j'y suis allée 14 fois. Et j'ai retrouvé Malayogi, ce saint de l'Inde absolument extraordinaire, qui est resté 40 ans en Nirvikalpa Samadhi sans boire, sans manger, sans dormir, sans voir le jour, et en plus qui grossissait. On ne le voyait qu'une fois par an, un jour par an pendant 20 heures. Sa peau avait la couleur de l'or, ses cheveux faisaient 5 mètres de long, il avait juste un petit morceau de coton autour de la taille, et c'est... Enfin, l'énergie qui se dégageait était... Mais la première fois que je suis allée, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement profond et d'une intensité poétique et magique très très forte, sans le voir, parce que c'était l'été, c'était pas le moment où il sortait. J'avais même pas besoin de le voir, tellement c'était fort, il était juste derrière la porte. Et après, je l'ai vu et c'était quelque chose de... Le miracle là-bas, c'était le commun. Et cette expérience, cette rencontre avec cette retrouvaille, on va dire, avec Balayogi, a complètement transformé mon travail, mon regard au monde, tout court, mon être intérieur, évidemment, le travail de création, ça c'est évident. Et puis aussi une source d'inspiration et de canalisation de l'énergie, parce que le cosmos c'est gigantesque, donc si on n'a pas un maître qui, il me semble, qui est le relais et le canalisateur de tout ça, on peut facilement se noyer et se perdre. Et puis quelle source d'inspiration et de vraiment il est là quoi quand il est là quand je si je soigne quelqu'un ou que je danse ou que je chante il est toujours là et il œuvre c'est lui qui œuvre à travers moi si je suis suffisamment transparente ce qui n'est pas toujours le cas.
Reprise du Primulesco, vous avez parlé d'énergie, vous avez dit aussi en même temps, je ne crois qu'à l'énergétique, d'une certaine manière. Bien, alors je dirais, l'énergie physique, on sait ce que c'est, l'énergie psychique, on le sait assez bien, c'est déjà plus mystérieux. L'énergie à laquelle vous faites référence, si c'est l'énergie du yoga, c'est quand même quelque chose qui irait à voir avec le corps physique et qui pourtant est l'énergie de ce qu'il faut, à défaut d'autre chose, appeler un corps subtil. Et les chakras, etc., on sait très bien que c'est une géographie subtile, en fait, du corps humain. Et on se demande alors précisément qu'est-ce que c'est que cette énergie au juste. Cette kundalini là qui remonte dans le long de la colonne centrale, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en voit bien les effets, mais en même temps, si c'est possible de le dire, évidemment, on se demande à quoi est-ce que cela peut correspondre.
Mais en tout cas, quand je commence un cours de kundalini yoga, j'explique que le réservoir d'énergie humaine est l'énergie sexuelle et que si elle est tournée vers le haut, elle vient irriguer les centres du cœur, de l'intellect, l'intuition et la dixième porte, etc. Et que cette essence, cette énergie essentielle qui habite l'être humain, représentée symboliquement par un serpent de conscience-énergie, conscience étant indissociable d'énergie, et qu'il est levé sur lui-même dans la région sacrée, sous la colonne, et que par le travail des exercices de yoga, on va préparer le canal central pour l'élévation de ce serpent de conscience-énergie à travers la colonne et les différents centres, comme vous avez dit très justement, les chakras font tout cet ensemble. Il y a 7 notes de musique, il y a 7 chakras, il y a 7 couches principales dans le corps subtil, des corps subtils dans l'aura. Donc on retrouve ce nombre 7 qui est... c'est un peu comme si on devait apprendre à harmoniser ces 7 chakras, ces 7 couches subtiles avec les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine et de créer une sorte de mélodie harmonieuse avec notre être entier, physique, psychique, émotionnel, sensitif, énergétique. Oui, quand on entre dans un état de méditation très profond, la sensation physique disparaît. La sensation du corps disparaît. Et je disais à Drukchen Rinpoche, qui est mon maître tibétain, on va dire de pratique, mais aussi de cœur, que plus je dansais et moins le corps existait. D'une certaine manière, on le transcende. Il devient un outil qui devient transparent. C'est plus un bras qui pèse X kilos, c'est un roseau traversé par le vent, c'est la ligne de l'horizon entre la mer et le ciel, c'est tout ce qu'on veut sauf un corps. Le corps devient vraiment un instrument de un laboratoire d'expérience. Bye.
Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez l'impression, en jouant de la musique, je suis désolé, moi il faut bien que je mette des mots, vous avez l'impression, en jouant de la musique, que vous vous inscrivez dans ce qu'on pourrait appeler, par exemple, une harmonie de l'univers?
Oui, on participe par le souffle et par... parce que quand je parle du souffle, c'est parce que je joue d'instruments avant, mais ceci dit, je crois que tous les instruments, même des percussions ou des instruments à cordes, sont également une sorte de souffle finalement, parce que ce qui compte, c'est le certain mouvement vibratoire qui en fait est pareil un peu pour tous les instruments, je crois. Peut-être le souffle est un peu privilégié parce que il y a le yoga du souffle et toutes les grandes vertus très extrêmement bénéfiques d'un contrôle de la respiration que connaissent soit les yogis, soit aussi des spécialistes d'instruments avant, des clarinettistes, des hautboïstes. C'est vrai que certaines musiques, la musique indienne par exemple, avec des longues notes, avec une pratique de pranayama, est plus proche de cette chose que d'autres musiques peut-être plus techniques et qui nécessitent moins de travail sur le souffle.
Traditionnellement, on définissait l'âme comme étant, je dirais, le monde intermédiaire entre le corps, notre corps de chair, d'une part, et l'esprit en tant que souffle, qui va où il veut, nous le savons très bien. Est-ce que de ce point de vue-là, on pourrait dire que le corps subtil est le corps de l'âme, étant entendu que le corps de l'âme n'est pas notre corps de chair, de la même manière que ce corps peut être un corps spiritualisé. Alors je sais bien que ce sont des notions que nous avons largement perdues en Occident, mais est-ce que c'est à ce genre de choses que vous faites allusion?
Oui, enfin, un très modeste niveau en ce qui me concerne, mais au maximum, quand j'ai vu la yogi, il avait une forme humaine, mais on sentait bien que c'était de l'énergie à l'état pur, tellement purifiée. Vous imaginez 40 ans sans boire, sans manger, sans dormir, donc en déniant totalement toutes les lois dont l'être humain dépend, en les défiant par cet état d'extrême conscience. Donc il avait 15 ans et demi, il gardait les vaches, il n'a jamais été à l'école et tout d'un coup sa conscience bascule de l'autre côté en samadhi. Et il n'en est plus jamais redescendu. Alors il y a des scientifiques, parce que même le gouvernement indien ne voulait pas croire, disait, c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et le gouvernement indien a envoyé une équipe de scientifiques au temple, qui est dans le sud, sur la côte est, entre à environ 650 km au nord de Madras, au milieu des rivières, dans une région pauvre, pauvre parmi les pauvres. Hein. Il a choisi de naître vraiment chez les Orcas du bas. Et c'était un diamant. C'était une sorte presque d'acte politique, on peut dire, non, pour revaloriser toutes ces populations gravement méprisées en Inde, parce que les castes sont... Enfin, tout ça, tout le monde connaît cette histoire de ce problème des castes. Le gouvernement indien a envoyé une équipe de scientifiques au temple pour vérifier. Alors, ils montaient la garde jour et nuit pendant 6 mois et ils ont vu que jamais personne n'entrait dans le temple, que les portes étaient fermées avec de très gros cadenas, comme c'est l'usage en Inde. Et personne n'entrait, ils ne buvaient jamais, ils ne dormaient jamais, personne n'entrait là. Ils sont retournés, ils sont remontés, ils ont plié bagages, ils sont remontés à Delhi. Et ils ont dit, la yogi est vraiment un grand yogi. Et effectivement, il n'y a jamais personne qui entre, il ne se nourrit pas, il n'absorbe rien. Il est enfermé dans le noir. Mmh.
Par définition, joue précisément sur le souffle, qui est à la fois un souffle physique, mais qui est en même temps un souffle, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler que spiritus en latin ou pneuma en grec, par exemple, ça veut dire précisément le souffle. C'est-à-dire qu'il y aurait un souffle subtil qui est au-delà du souffle physique, en relation avec lui, mais que c'est là où il se passe justement une sorte de respiration, je dirais, comme d'échange avec ce qui serait de l'ordre du divin.
Tout à fait. Et être en face de Balayogi, c'était justement vivre cette expérience, cette expérience-là en direct par le corps.
Mais alors, vous-même, dans votre propre pratique, mm-hmm. vous donnez des cours de chant, de danse, etc. Mm-hmm. Vous faites aussi de la thérapie. Mm-hmm. Vous donnez des cours de yoga. Mm-hmm. Donc apparemment, cette pratique du souffle est quand même très importante dans votre...
Je pense que le souffle a une influence fondamentale sur la psyché des êtres et sur la qualité de la santé. On respire 24 heures sur 24 et qui pense à sa respiration? Très peu de gens pensent, tiens, je suis en train de respirer, conscient de son souffle, du pneuma et des incidences que peut avoir la conscience de ce souffle.
De ce point de vue-là aussi, est-ce que le souffle ne serait pas, je dirais, l'activité même du corps subtil?
Tout à fait. Tout à fait. Des corps subtils, je dirais. Oui. Mais le souffle peut devenir très, très, très doux, très ralenti, presque... peu présent d'une façon visible, audible, et pourtant est entré et descend dans des mondes de plus en plus subtils. D'installer une sorte de silence, un silence respiratoire, un silence physique et un silence mental où on va aller de plus en plus profond dans ce silence et qui va nous faire contacter des plans de plus en plus subtils à l'intérieur et qui déclenche la vision. Moi, ce qui me fascine dans tout ce travail, c'est la mémoire du corps. Le corps détient une mémoire absolument extraordinaire, une mémoire cosmique, une mémoire psychique, une mémoire émotionnelle.
À travers ce que vous dites, Pominesco, je dirais qu'en même temps, il y a quelque chose qui est assez difficile à déterminer. Je m'explique tout de suite. Je vois que vous préparez un disque qui s'appellerait Om Amen. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire Om, la syllabe sacrée des hindous, Amen, ce qui nous vient du judaïsme et qui est le mot même du christianisme. Et de se dire, mais est-ce que finalement vous vous déployez sur les deux plans en même temps, si je veux dire?
Tout à fait. Tout à fait, c'est très juste. Pour moi, c'est important de relier l'Occident et l'Orient. J'ai d'abord cru que j'étais née par erreur en Occident, tellement je me sentais chez moi en Orient. Et puis quand j'étais en Inde et que j'ai interrogé, on va dire, l'invisible là-bas, j'ai senti très clairement que je ne pouvais pas rester là-bas. Donc c'était très clair que j'ai à travailler dans un pont qui relie les deux cultures. Et finalement, c'est l'Orient et l'Occident intérieur à quoi ça me ramène. Finalement, si je ferme les yeux, je suis aussi bien au temple de Balayogi que dans ce studio. Il y a comme une espèce d'omniprésence des choses. Après, les choses s'unifient à l'intérieur. Elle se pacifie par une unification.
Oui. Est-ce que dans l'expérience, ce que vous nous dites là, cela ne voudrait pas dire que, d'une certaine manière, la géographie à laquelle nous sommes habitués est une géographie très, très maladroite, en fin de compte, et que le véritable pays de l'âme est un pays que l'on ne trouve sur aucune carte.
Oui, absolument. Oui, je suis absolument d'accord. C'est ça. Le pays intérieur ne se trouve sur aucune carte, n'a aucun visage, et il est extrêmement difficile d'en parler. C'est quelque chose que l'on expérimente à l'intérieur. Et c'est... quand je parlais de ce silence mental, physique et de tout à l'heure, qui permettait d'entrer dans des mondes plus subtils et qui permet à la vision de se déclencher. Et cette vision, c'est effectivement ce pays intérieur, un pays qui est en mouvement constant et qui déclenche un mouvement, une action. C'est comme une espèce de danse. En fait, tout, quand on voit Shiva dansant, je crois que je suis profondément shivaïte, en fait. Voilà, tout est dit. Shiva danse. C'est la danse cosmique, c'est la danse du monde, c'est une espèce de danse immobile. Et tout au fond de cette immobilité, il y a le mouvement constant.
Dans l'univers, d'une certaine manière extraordinairement moderne, pour ne pas dire post-moderne, dans lequel s'inscrit Pumilescu, qui est cette recherche de nouveaux types de rapports avec le spirituel, de nouveaux types de quête, en quelque sorte, du principe au-delà de tout principe, qui marque notre époque dans une sorte de mouvement de fond sur lequel sont à peu près d'accord tous les sociologues, il faut peut-être se rappeler l'ouvrage de Jacques Ellul, Les Nouveaux Possédés, qui avait déjà marqué dans son temps, il y a une trentaine d'années lorsqu'il avait été publié, et qui est redonné aujourd'hui par les éditions des Mille et Une Nuits. Et où Jacques Ellul, sous ce titre Les Nouveaux Possédés, qui évidemment est extrêmement ambigu, parce que ça peut faire penser aux possédés selon Dostoïevski, c'est-à-dire ceux qui se dirigent vers les mondes du mal, mais en même temps peut envoyer à des rites de possession, tels qu'on les connaît par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, à travers ces nouveaux possédés, Jacques Ellul montre comment il y a une sorte de crise d'identité religieuse qui est celle du monde moderne, et en même temps une recherche de nouveaux mythes, une recherche d'une nouvelle religiosité qui parfois d'ailleurs nous introduit aux pires horizons. Là nous sommes effectivement dans le monde de Dostoïevski, par exemple, dans ce qu'il appelle ces religions séculières que nous avons connues dans la tempête, si l'on peut dire, au milieu du XXe siècle, avec un mouvement comme celui du nazisme. Le mythe du paradis perdu, que l'on retrouvera à la fin des temps, est directement en relation avec le mythe du progrès et celui du bonheur. Le mythe de la jeunesse a ses racines certaines dans le mythe du dieu jeune, porteur de l'espérance, et toujours sacrifié. Et puisque nous sommes dans ce domaine mythique, je voudrais signaler l'ouvrage dirigé par Michel Devaux, Tolkien, Les Racines du Légendaire, aux éditions Ad Solem. D'une certaine manière, au-delà de l'actualité qui est celle du cinéma par exemple, on sait très bien comment Tolkien est peu à peu devenu une sorte de maître à penser ou de maître à imaginer pour beaucoup de générations et en particulier pour beaucoup de ceux qui sont le futur de notre propre société, c'est-à-dire les adolescents d'aujourd'hui. Et où, à travers tout un certain nombre d'études extrêmement savantes, on essaie de trouver quelles sont les racines précisément mythiques de l'œuvre de Tolkien, dont on sait qu'il allait beaucoup chercher du côté scandinave, ou du côté saxon, avec des textes comme le Beowulf, ou du côté de l'imaginaire celtique. Et en même temps, dans ses racines du légendaire, de montrer comme tout est parcouru par la foi profonde qui était celle de Tolkien, qui était, on le sait généralement, la foi catholique. De la terre sauvage à la rive occidentale, par antre et dragon et porte cachée, du désert nordique à la colline méridionale, et par les sombres bois, il erra à son gré, par antre de dragon et porte cachée. Et puis, d'une certaine manière, comme à l'antithèse de ce à quoi nous avons fait allusion aujourd'hui, je voudrais signaler aussi la réédition, ou plus exactement la nouvelle traduction aux éditions Rivage Poche, de ce que on peut appeler l'œuvre de Marc Aurèle, cet empereur romain de la presque fin du IIe siècle après Jésus-Christ, intitulé ici « À soi-même », c'est-à-dire qui sont toutes ces pensées que Marc Aurèle a consignées au fur et à mesure de son existence dans le grec qu'il pratiquait. Et on voit très bien comment, pour Marc Aurèle, l'exercice de la philosophie est quelque chose de l'ordre de ce que Boèce, par exemple, plus tard, dans la veine chrétienne, appellera la consolation, ou de ce que, aujourd'hui, on appellerait sans aucun doute la thérapie, mais la thérapie de l'âme, le soin, le souci de l'âme qui doit la purifier, qui doit lui permettre de regagner sa nature véritable, tout cela, bien entendu, dans le courant du stoïcisme dont relève Marc Aurèle. Et où donc on doit aboutir, et c'est bien cela tout le travail de ses pensées, à une sérénité de l'âme dans les malheurs qu'elle rencontre dans le monde tel qu'il est, et on voit très bien comment pour lui, empereur, au sommet de la gloire et au sommet du pouvoir, il y a en même temps une solitude extrêmement profonde, et qu'il ne peut la vaincre que non seulement, évidemment, par l'acceptation de son destin, mais par sa réinscription dans le destin de l'univers. Pense à sa inscription sur les tombeaux, le dernier de la lignée. Que d'efforts avaient fait les ascendants pour laisser un héritier. Il a fallu cependant que quelqu'un fût le dernier. Et voici encore comment meurt toute une lignée.
Les livres aujourd'hui. Les nouveaux possédés de Jacques Ellul aux éditions des Mille et Une Nuits. Tolkien, les racines du légendaire de Michel Devaux aux éditions Adsolem. Et une nouvelle traduction des pensées de Marc Aurèle dans un livre intitulé « À soi-même » aux éditions Rivage Poche. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Pumilesco et de Didier Malherbe. Musique, Didier Malherbe et Anello Capuano. Mixage, Michel Mestre. Réalisation, Isabelle Huel.